Bien, donc l'histoire de l'Église, on termine ce soir l'histoire des Anabaptistes. Les Anabaptistes dont nous avons vu les différentes vicissitudes après la tragédie de Münster, et plus particulièrement le travail de reconstruction qui avait été organisé par Menno Simon. Ensuite, il y a, à partir de Menno Simon, d'autres hommes de Dieu, disons, qui, sur une échelle plus restreinte, vont entreprendre le même travail de reconstruction. Et il faudrait citer, en 1442, un certain Pilgram Marbeck, P-I-L-G-R-A-2-M, Marbeck, comme ça se prononce avec CK au bout, ça, qui va écrire un petit livre sur ce que l'on appelle les frères, puisque eux-mêmes, évidemment, ne reconnaissent pas l'appellation d'anabaptiste qui leur est donnée, puisque anabaptiste signifie rebaptiseur. Et bien entendu, comme les baptistes modernes, ils se défendent de rebaptiser les gens. Et dans ce livre, qui est une apologie du mouvement des frères, donc du mouvement anabaptiste, Marbeck part de l'Église ancienne, qui est la visée évidemment du protestantisme en général, mais des anabaptistes surtout, puisque les anabaptistes accusent les églises protestantes du terreau réformé de s'être arrêtées en chemin et de ne pas avoir pris véritablement comme modèle l'Église primitive. Eux entendent revenir à l'Église primitive. Et l'Église primitive, pour Marbeck, est caractérisée par trois aspects essentiels. La prédication de l'Évangile, le baptême des adultes et la Sainte Cène. Ensuite, il faut citer un certain Soncin, S-O-N-C-I-N, qui va avoir son théâtre d'opération, si j'ose dire, en Transylvanie et en Pologne, et qui va agir de 1559 à 1562 dans toute cette région de la Pologne et de Transylvanie, donnant naissance à ce qu'on appelle les églises sonciniennes, qui ont été pendant longtemps une des branches, justement, un des rameaux de l'anabaptisme. Je pense qu'il doit encore en exister de nos jours, et qui vont différer légèrement des églises, par exemple, ménonites, qui sont l'église référence sur le plan de l'anabaptisme, sur la question, justement, des sacrements, la forme du culte, l'organisation et les relations avec l'État. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que c'est tout un chapitre sur lequel, finalement, il y a assez peu de choses qui ont été dites, vu la suspicion et le mépris dans lequel les historiens officiels de l'Église continuent à tenir tout le mouvement anabaptiste. En tout cas, que ce soit Menno Simon, que ce soit Marbeck ou que ce soit Soncin, les différents mouvements qu'ils organisent ne vont pas tarder, bien évidemment, à connaître eux aussi la persécution. Nous avons vu l'édit de Charles Quint qui déclarait que tous ceux qui se faisaient rebaptiser, entre guillemets, étaient tout simplement passibles de mort. Il faut citer aussi, parmi les rameaux de l'anabaptisme, un certain Gaspard, alors là je ne sais pas comment ça se prononce, Schwanfeld. Ça s'écrit S-C-H-W-E-N-C-H-F-E-L-D. Alors, Colette va nous prononcer ça avec l'accent. Oui, quelque chose comme ça, quoi. Vous avez tous compris. Ce Gaspard en question, je vais l'appeler par Gaspard, ce sera plus facile pour tout le monde, né en 1489... Et il meurt en en la fin du siècle, en 1561. Et alors qu'il est âgé de 30 ans, il lit Luther et il se convertit. Mais très vite, il se rend compte que Luther se trompe sur la Sainte Cène et sur le fait qu'il continue à être associé avec l'État. Et Gaspard se rend bien compte que l'Église d'État est quelque chose qui est antibiblique. Finalement, il est très attiré par les anabaptistes, mais il est un petit peu rebuté par le fait qu'il y a, ce sont en général des gens très simples, lui est un noble, n'est-ce pas ? Il se sent un peu mal à l'aise au milieu d'eux, à cause de leur caractère un peu frustre. Et puis aussi, il les accuse, à tort ou à raison, de légalisme. Finalement, Gaspard décide, après avoir fait le tour de tous les groupes qui existent, de ne se rattacher à aucun, dit-il, dans le but de les aimer tous. Ce qui est une position assez facile, évidemment, qui lui évite des persécutions, qui lui évite de se trouver pris dans les différents courants qui agitent à ce moment-là l'Europe chrétienne, et finalement de ne pas être très compromis. L'attitude de Gaspard Schoenfeld est assez typique, n'est-ce pas, de ce que sera l'attitude de nombre d'évangéliques jusqu'à nos jours, n'est-ce pas ? Et l'on voit que précisément, c'était quelque chose vers lequel le mouvement évangélique tendait dès les origines, puisqu'il est le premier à adopter cette position et à la défendre. Schoenfeld croyait aussi au don du Saint-Esprit, et il attendait la parousie, il attendait le retour du Seigneur. Facile. Quel a été l'impact du mouvement anabaptiste en France ? En France, il a été beaucoup moindre qu'en Suisse, mais il a touché un professeur de l'Université de Paris en 1555 qui se nommait Jacques Lefebvre et qui avait rencontré Farel, avait adopté la doctrine du salut par la foi, puis avait été en contact avec Marguerite de Valois et ensuite avec l'évêque de Meaux Brissonnet dont nous avons déjà parlé. Lui-même se trouve dans le diocèse de Meaux et il est plutôt témoin de nombreuses plaintes de prêtres de Meaux qui se plaignent de la dérive de l'Église, qui se plaignent du fait que Brissonnet n'ait pas été non plus jusqu'au bout de sa démarche, comme nous l'avons déjà vu. Et Lefebvre, donc, s'approche de ces prêtres pour leur prêcher l'anabaptisme. Il est un peu regrettable qu'un homme de l'envergure et de l'érudition de Jacques Lefebvre, qui était professeur à l'Université de Paris, n'est-ce pas, soit tombé, hélas, dans un certain nombre d'outrances des anabaptistes. Et un beau jour, Jacques Lefebvre entre dans la cathédrale de Metz et il brise les idoles publiquement. Évidemment, il est arrêté, il est exécuté, n'est-ce pas ? Bon, on sait que dans les premiers siècles de l'Église, ce genre d'excès avait aussi cours, n'est-ce pas ? On le retrouve évidemment à la Réforme. Néanmoins, bien que les choses ne soient pas très répertoriées, parce que le mouvement anabaptiste, encore une fois, a été tellement combattu et tellement souterrain qu'on connaît peu de choses en ce qui le concerne, mais il semble qu'en France, il y ait eu de nombreuses assemblées qui se soient créées. On trouve, par exemple, les traces d'une communauté anabaptiste importante à Paris, dans ces années-là, qui sera rassemblé chez un certain Jean de Massara. Et on sait, par exemple, on a une lettre de lui qui évoque le fait qu'à l'occasion de la naissance de son fils, qui avait eu lieu en 1555, il avait profité de cet événement pour consacrer chez lui, donc dans sa maison où se rassemblait la communauté anabaptiste, un certain nombre de diacres. Bon. Par contre, en Suisse, les anabaptistes étaient infiniment plus nombreux Et ils étaient également nombreux, en général, sur les frontières. Pour une raison simple, c'est que s'ils étaient persécutés, comme disait Jésus, si on vous persécute dans une ville, fuyez dans l'autre. Donc s'ils étaient persécutés dans un pays, proche de la frontière, c'était facile de passer la frontière, de se réfugier dans le pays voisin, et de faire la manœuvre inverse, si au bout d'un certain temps, n'est-ce pas, le pays d'accueil se mettait à nouveau à persécuter. Si les conditions politiques changeaient, on pouvait donc changer facilement de pays. C'est pourquoi, en France, les anabaptistes étaient surtout concentrés dans l'Est, le long de la frontière suisse, puis le Montbéliard, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, n'est-ce pas, Alsace-Lorraine, bref, le Doubs, la région du Doubs, etc., parce que ça leur était facile, en cas de problème, de passer en Suisse. Bon, voilà en gros ce qu'on peut dire de l'anabaptisme, vu les maigres sources dont on dispose, bien évidemment. Il n'y a pas de doute que l'histoire anabaptiste est infiniment plus riche que cela. Mais nous sommes obligés de passer maintenant à un nouveau chapitre, qui est la contre-réforme catholique. Après la réforme, qui marque grosso modo la première partie du XVIe siècle, la deuxième partie du XVIe siècle est marquée par la contre-réforme catholique. Contre-réforme qui se veut elle-même une réforme de l'Église catholique. Cette réforme qui est réclamée depuis le XVe siècle, surtout, c'est pas, après les fameux conciles avortés de Constance et de Bâle, et que la hiérarchie catholique, la papauté essentiellement, avait tellement hésité à entreprendre, vu le souvenir cuisant qu'elle avait justement des deux conciles précédents. Finalement, après bien des hésitations, des tergiversations, après la demande réitérée notamment des autorités politiques, à savoir essentiellement de Charles Quint, la papauté, en la personne du pape Paul II, va se résoudre à convoquer un concile œcuménique. Il faut dire que, vers la moitié du siècle, à peu près au moment de la mort de Luther, le catholicisme est en plein désarroi. C'est l'époque où, désespérant de voir l'Église catholique réagir spirituellement, les souverains catholiques européens, à savoir Charles Quint et François Ier, organisent les premières guerres de religion, ainsi que nous aurons l'occasion de le voir. En fait, il apparaît nettement que le catholicisme ne sait comment prendre le problème de la réforme. Pourquoi le catholicisme avait-il tant hésité avant d'entreprendre un concile œcuménique? Eh bien, on craignait essentiellement que la convocation d'un nouveau concile œcuménique aille dans le sens du concile de Constance, c'est-à-dire vers l'affaiblissement du pouvoir papal. Il y avait une chose que la papauté n'était absolument pas prête à remettre en cause, c'était justement son pouvoir absolu. Finalement, devant l'immensité du désastre, si j'ose dire, la papauté décide de jouer son ultime carte, qui est justement le concile œcuménique. Ce concile se rassemble dans la ville de Trente, en Italie, et il va siéger pendant 20 ans. Et vous, c'est un concile important, avec deux interruptions néanmoins. Quand on sait que Vatican II a duré 4-5 ans, tout au plus, n'est-ce pas ? On imagine ce qu'a été le concile de Trente, 20 ans, n'est-ce pas, de travail. C'est quelque chose de tout à fait considérable. La première session aura lieu de 1546, c'est tout à fait intéressant de constater, et c'est un hasard, que le concile de Trente se rassemble l'année même de la mort de Luther, 1545, n'est-ce pas. Donc 1546, le concile va siéger un an, jusqu'en 1547, et la session prendra fin pour cause de peste. La peste éclate dans la ville de Trente, et les pères conciliaires, courageux mais pas téméraires, préfèrent aller se mettre au vert en attendant que les choses s'arrangent. Nous avons ensuite, bon, ça c'est les préliminaires, on ne peut pas appeler ça une session, mais nous avons la première session proprement dite qui se tient de 1551 à 1552 et qui prend fin aussi pour des raisons indépendantes de la volonté des pères conciliaires. Ça prend fin essentiellement à cause de l'invasion des Turcs qui s'approchent du Tyrol et qui entendent faire leur jonction avec l'armée protestante. Si bien que l'Italie est prise en tenaille entre les Turcs à l'est et les protestants à l'ouest. Et là aussi, les pères conciliaires courageux mais pas téméraires préfèrent aller se réfugier dans des endroits plus sûrs en attendant que le danger passe. Et enfin, eh bien, la troisième session se tient de 1562 jusqu'à 1564. Deux épiscopats vont tenir dans ce concile une place prépondérante, l'épiscopat italien et l'épiscopat espagnol. Il y a dans la convocation du concile trois buts. Le premier, bien évidemment, extirper l'hérésie. Deuxièmement, réformer la discipline. Alors, remarquez, il s'agit de réformer la discipline et non pas la foi. Rétablir et réformer la discipline et les mœurs du clergé, c'est-à-dire que ça a toujours été la visée des réformes catholiques. Que ce soit la réforme de Cluny dont nous avons parlé en son temps, que ce soit la réforme cistercienne, que ce soit les tentatives avortées de réforme du XIVe et du XVe siècle, que ce soit finalement Vatican II, les visées des réformes catholiques ne visent que les mœurs. Par exemple, on disait de Vatican II qu'il était un concile pastoral, hein, c'est-à-dire qu'il visait les mœurs, mais pas la doctrine. Et c'est pourquoi, quand on dit la réforme du XVIe a été finalement déclenchée parce que justement les mœurs du clergé étaient tellement corrompues que, eh bien, l'Église catholique ne prenant pas l'initiative de sa propre réforme, eh bien, la base l'a pris. Or, justement, c'est totalement erroné. Car la réforme protestante n'était pas une réforme des mœurs. C'était une réforme doctrinale. C'était une réforme beaucoup plus profonde. Et on ne refait pas l'histoire, bien sûr. Et avec des si, comme on le dit familièrement, on peut mettre Paris dans une bouteille. Mais on peut se demander si l'Église catholique avait pris l'initiative d'une réforme au début du XVIe siècle. Si le Concile de Trente avait été convoqué au début du XVIe siècle. On peut se demander si cela aurait empêché la réforme protestante. Ça n'est pas certain. On peut même, il y a de grandes chances pour que ce soit l'inverse. Par conséquent, le Concile de Trente n'était pas vraiment une réponse à la réforme protestante. Car le troisième but du Concile, c'était de réaffirmer les dogmes. Or, nous avons vu, les réformateurs, les premiers, avaient demandé la convocation d'un concile. Luther avait été le premier à demander la convocation d'un concile pour discuter de ses thèses et pour les faire adopter officiellement au plus haut niveau par l'Église catholique. Et quand finalement est donnée satisfaction aux réformateurs, qui avait demandé ce concile, eh bien, les réformateurs ne s'y reconnaissent absolument pas. Parce que les visées du concile ne sont pas du tout ce qu'ils ont demandé. C'est-à-dire qu'on va traiter, on ne va pas traiter du véritable problème. On ne va pas au fond du problème. C'est une réforme superficielle. Réforme des fois et réforme des mœurs, du clergé. Il y en a eu déjà dans le passé un certain nombre et... C'est dépassé, cette affaire-là. C'est dépassé. Il faut aller infiniment plus profond. Alors, le Concile va faire une réforme doctrinale, mais dans un sens inverse de celui qu'attendent les réformateurs. Ça veut dire qu'il va réaffirmer les dogmes catholiques et aller encore plus loin dans l'hérésie que celles que les réformateurs ont dénoncées. Ça veut dire qu'ils vont durcir les positions catholiques. Et ce faisant, c'est très habile. Car les papes tridentins ont pris la mesure du désastre. Il y a eu les fameux colloques dont nous avons parlé, la tentative de conciliation d'Augsbourg, etc. Le colloque de Poissy en France dont nous aurons l'occasion de reparler. Et toute tentative de conciliation a échoué. Et la papauté comprend que dans cette situation-là, si elle veut ne pas être emportée dans la tourmente, il lui faut durcir la position et rendre toute réconciliation impossible pour que ce soit l'affrontement. Et le Concile de Trente est une recherche de l'affrontement, doctrinalement parlant. C'est pourquoi toutes les positions catholiques les plus extrémistes, celles qu'ont dénoncées avec force les réformateurs, sont réaffirmées et durcies encore, n'est-ce pas ? Le Concile de Trente est un concile de combat. Les réformateurs ont compris que dans un combat d'idées, eh bien, le dialogue, le compromis et les accommodements, finalement, bénéficient toujours à l'adversaire. Et que pour faire la part du feu, pour empêcher la décomposition de son propre camp déjà très entamé par les idées de la réforme, eh bien, c'est d'obliger chacun à se déterminer, à choisir son camp, et pour cela, de durcir les positions. Ça, c'est une tactique qui est absolument élémentaire, je dirais, dans le cadre d'un affrontement d'idées. Et les pères conciliaires, eh bien, en tirent les conclusions. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on va déclarer l'inspiration des apocryphes, des livres apocryphes. Ce qui était en suspens depuis déjà des siècles et finalement n'avait jamais été tranché. Mais, puisque la réforme se base sur l'écriture pour combattre le catholicisme, et notamment toute la doctrine de l'au-delà du catholicisme, à savoir la gestion en quelque sorte par l'Église de l'au-delà au travers du purgatoire, des indulgences, des messes pour les morts, des sacrements, etc. Eh bien, on trouve dans le deuxième livre des Maccabées un verset, un seul verset, où nous est dit qu'après l'abattage, Judas Maccabée offre des sacrifices et des prières pour ceux des Juifs qui sont tombés au combat. Donc ils sont morts. Or, comme les textes canoniques, reconnus à la fois par les protestants et les catholiques, n'offraient aucun verset qui puisse appuyer la doctrine catholique de l'au-delà, eh bien, par un tour de passe-passe, on déclare que tous les apocryphes, sans exception, sont canoniques, sont inspirés, tout en faisant une petite nuance quand même. Ça veut dire, on appelle ces livres-là des deutéros canoniques, ça veut dire appartenant à un deuxième canon. Ça veut dire que même le Concile de Trente, qui est un des conciles les plus extrémistes que l'Église catholique ait jamais eu, le plus extrémiste, est obligé de reconnaître qu'il y a un degré d'inspiration moindre à ces livres-là que les autres. Mais grâce à ce tour de passe-passe, on a enfin un texte biblique pour combattre le protestantisme sur la question du purgatoire, des indulgences, des sacrements, etc. Vous me direz que c'est maigre. Enfin, quand on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, que voulez-vous ? On est obligé de faire flèche de tout bois. Alors, dans la foulée, évidemment, passe comme inspiré les histoires farfelues de Belle et du Dragon, de Suzanne et des Vieillards, de l'histoire de Tobie et de son ange gardien, etc. Enfin bref, tout ça, quoi. Bon, ça fait rien. Deuxième mesure. Ah, alors là, tout de suite voté. Ça, c'est le point de départ du concile. Interdiction de lire la Bible en langue vulgaire. Parce que ce qui a fait la fortune de la Réforme, ça a été justement que la Bible a été mise à la disposition du peuple dans sa langue. Or, on déclare que la seule Bible inspirée est la Vulgate latine. Donc, les originaux hébreux et grecs ne sont pas inspirés. Ce qui permet, par exemple, de réaffirmer les dogmes mariaux. Car Jérôme traduit, n'est-ce pas, la salutation de l'ange à Marie, n'est-ce pas, Carikekomene, quelque chose comme ça, n'est-ce pas, qui a été l'objet d'une grâce de la part de Dieu. Je te salue, Marie, qui a été l'objet d'une grâce spéciale de la part de Dieu. Et Jérôme a traduit cela d'une manière très malheureuse en latin, gratia plena, que l'on traduit littéralement par pleine de grâce, et qui est la base scripturaire de toute la mariologie catholique. C'est-à-dire que si Marie est pleine de grâce, elle est aussi distributrice des grâces. Elle est donc distributrice de toutes les grâces, elle, elle possède les grâces, et c'est à elle qu'il faut aller pour recevoir les grâces de Dieu. Alors voyez comment, ça n'est pas anodin de dire c'est la Vulgate qui est inspirée. Car la Vulgate permet d'établir les dogmes catholiques. Mais on va même plus loin dans le domaine de la mariologie. Il existe plusieurs recensions du texte de la Vulgate, dont une qui est une traduction particulièrement malheureuse du protévangile de la Genèse, Genèse 3, n'est-ce pas ? Où le Seigneur parle au serpent et lui dit « Donc je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Or ici justement en hébreu, c'est très intéressant, le mot « descendance » est un féminin. Et après donc il est dit « Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors que logiquement, si c'était agi de la descendance, il aurait fallu « elle t'écrasera la tête, ta descendance ». Et l'hébreu, donc, utilise le masculin. Donc un individu qui descendra de la femme, dans lequel les rabbins déjà ont vu le Messie, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Or, Jérôme traduit, n'est-ce pas, échange, et dit « Elle t'écrasera la tête ». Et à partir de cette traduction fausse de Jérôme, cette erreur de traduction, l'Église catholique dit « La femme, donc Marie, écrase la tête du serpent ». D'où l'imagerie que vous trouvez au Moyen-Âge jusqu'à nos jours, n'est-ce pas, de Marie triomphante, n'est-ce pas, qui a le pied sur la tête du serpent. C'est plus le Messie, c'est plus Jésus qui écrase la tête du serpent, c'est Marie qui écrase la tête du serpent. Alors, voyez-vous, ce n'est pas anodin du tout de dire c'est la Vulgate qui est inspirée, et pas le texte original grec ou hébreu. Car à ce moment-là, on peut faire passer tous les dogmes catholiques. Alors, évidemment, les réformateurs ont eu beau jeu de montrer tout ce que la position catholique avait d'absolument invraisemblable et d'illogique. Comment les erreurs de la Vulgate étaient évidentes. Et aujourd'hui, l'Église romaine ne tient plus cette position. Mais elle dit quand même que la Vulgate est inspirée au même niveau que les originaux hébreux et grecs. On a mis un peu d'eau dans le vin, quoi. Voilà. Donc, l'ambiguïté catholique qui est une des marques de cette religion. Troisième point qui va être réaffirmé par le Concile de Trente, celui auquel les papes tenaient par-dessus tout et qui était la condition pour eux pour convoquer le Concile. Réaffirmation de la supériorité du pape sur les conciles. En effet, les réformateurs ont déclaré que le Concile de Trente n'est pas un concile œcuménique. Ce n'est pas un concile œcuménique pour une raison très simple, c'est qu'il y a toute une partie de l'Église qui n'y participe pas. Par conséquent, pour nous, les conclusions de ce concile sont d'avance nulles et non avenues. Réponse du Concile de Trente, de toute façon, même si le concile n'était pas véritablement œcuménique, peu importe, car le pape a autorité et priorité et primauté sur les conciles. Et finalement, Vatican I, en 1870, poussera la logique de cette affirmation dans ses plus extrêmes conséquences, jusqu'à affirmer l'infaillibilité papale. Mais la voie est ouverte par le Concile de Trente. Alors, ici, il y a des théologiens qui vont jouer un rôle important. Le plus important d'entre eux sera un certain Melchior Caro, qui est un théologien espagnol. Or, l'Espagne, nous l'avons vu, a réussi à passer à côté du mouvement de la Réforme en persécutant à mort tous les protestants. C'est l'époque où l'Inquisition se déchaîne contre les Juifs. Par conséquent, l'Espagne est, sur le plan religieux, une des forteresses catholiques, presque plus encore que l'Italie. Et en tout cas une forteresse d'obscurantisme et de fanatisme, à cause de la guerre de reconquête contre les musulmans, qui vient de s'achever, et puis à cause de la lutte contre les juifs. Et Melchior Caro fait adopter un autre dogme, c'est que la tradition a la même valeur que l'écriture. Il y a deux sources de la révélation, l'écriture et la tradition. Elles sont sur le même plan. Ce qui permet de dire, quand on est attaqué sur le plan de l'écriture et qu'on est en difficulté sur le plan de l'écriture face aux réformés qui ont la partie belle, même si on a des artifices comme ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, les apocryphes ou bien la Vulgate, c'est quand même un peu court. Alors, on fait appel à la tradition. Là aussi, bien sûr. Les protestants auront beau jeu de dénoncer, n'est-ce pas, cette énormité. Et là aussi, l'Église catholique mettra un peu d'eau dans son vin avec Vatican II, en réaffirmant que si la tradition a la même autorité que l'Écriture, elle est quand même seconde par rapport à l'écriture et que l'écriture découle de la tradition. Allez, on est vraiment dans l'ambiguïté jésuitique qui caractérise l'Église catholique, comme pour l'histoire de la Vulgate et des originaux. Donc, et ça c'est un autre point important, si la tradition a la même valeur que l'écriture, ça veut dire que l'Église est maîtresse de l'écriture, et qu'elle seule a le droit de l'interpréter. L'Écriture appartient à l'Église, et c'est au magistère romain de l'interpréter. D'où l'interdiction de la mettre entre les mains du laïc, qui va l'interpréter sans la lumière de l'Église et qui par conséquent va errer. C'est pourquoi l'Écriture est réservée aux clercs, à ceux dont la mission est justement de l'interpréter. Autre dogme qui va être réaffirmé par Trent, la messe en tant que sacrifice. Lorsque le prêtre prononce les paroles rituelles de consécration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », le pain eucharistique se trouve changé, comme on l'a vu dans le dogme, la transsubstantation qu'ont tant combattu les réformateurs, dans le corps, la chair matérielle de Jésus, et si l'hostie est véritablement le corps de Jésus, quand cette hostie est brisée, le sacrifice de Jésus à la croix est réédité en quelque sorte. Il est refait. Par conséquent, la messe est un sacrifice non sanglant et le prêtre est un sacrificateur comme l'étaient les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Là, évidemment aussi, la contre-attaque protestante est immédiate. Hébreux, n'est-ce pas ? Le sacrifice unique est offert une fois pour toutes de Jésus. Sacrifice qui n'est pas renouvelable, le texte est clair. Et devant ce texte si évident, Vatican II a été obligé de mettre aussi un ou deux bémols à Trent et affirmer que ce n'est pas véritablement la réédition du sacrifice unique de Jésus, mais c'est un mémorial. Alors il y a une réédition, on répète le sacrifice de Jésus sans vraiment le répéter. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de la discussion épique qu'on a vue avec le Père Lemal sur ce sujet. Il a fallu prendre les textes de Vatican II pour le convaincre de sa propre doctrine et essayer de nous soutenir le contraire, n'est-ce pas ? Mais c'est tellement ambigu, n'est-ce pas ? C'est sans être. C'est toujours pareil avec l'Église catholique. C'est sans être. Hein ? Bon. Puis, enfin, on passe à l'autre objet du Concile, la réforme du clergé. Bon, voilà, c'est la cuisine interne, quoi. Ça nous intéresse moins. En fait, le Concile de Trente est le concile le plus papiste de toute l'histoire de l'Église. Et la conclusion est celle-ci. Se résume par cette phrase qui a fait fortune, « Hors de l'Église catholique, pas de salut. » Et le pape doit approuver chacune des décisions de l'Église catholique. En fait, on peut dire que le parti réactionnaire le plus intolérant avait la haute main sur le concile. C'est-à-dire que, à la fin du Concile de Trente, il n'y avait plus aucun dialogue possible avec le protestantisme. C'était la fermeture totale. Et les choses étaient rédigées dans un style qui était absolument un style agressif. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, session 6 du canon 9. Si quelqu'un dit que l'impie est justifié par la foi seule, en sous-entendant que rien d'autre n'est exigé qui coopère à l'acquisition de la grâce et de la justification, et qu'il n'est nullement nécessaire que le pécheur soit préparé et disposé par l'impulsion de sa volonté, qu'il soit anathème. Canon 12. Si quelqu'un dit que la foi qui justifie n'est rien d'autre que la confiance en la miséricorde divine qui remet les péchés à cause de Christ, ou que cette confiance est la seule par laquelle nous soyons justifiés, qu'il soit anathème. Canon 24. Si quelqu'un dit que la justice reçue ne peut être conservée ou même qu'elle ne peut être accrue devant Dieu par les bonnes œuvres, mais que les œuvres elles-mêmes ne sont que le fruit et les signes de la justice acquise, mais qu'elles n'en provoquent aucun accroissement, qu'il soit anathème. Donc, démolition de la justification par la foi. Canon 32. Si quelqu'un dit que les bonnes œuvres d'un homme justifié sont des dons de Dieu, dans ce sens qu'ils ne sont pas de bons mérites du justifié lui-même, qu'il soit anathème. canon 229. Comme par l'expérience, il est évident que si les saints livres sont répandus partout sans discrimination en langue vulgaire, il s'ensuit à cause de la témérité des hommes plus de mal que d'utilité, qu'ils soient laissés dans ce domaine au jugement de l'évêque ou de l'inquisiteur, de pouvoir donner, après s'être entendu avec le pasteur de la paroisse ou le confesseur, le droit de lire la Bible en langue vulgaire traduite par des auteurs catholiques, à ceux qu'ils verront ne pouvoir en retirer du dommage, mais au contraire l'accroissement de foi et de piété à la suite d'une telle lecture, qu'ils aient cette autorisation par écrit. C'est-à-dire que chaque évêque, c'est-à-dire que si un laïc ou même un clerc, un prêtre, veut lire la Bible dans sa langue, il doit d'abord demander autorisation à l'évêque. Et l'évêque juge si l'individu en question qui fait la demande est suffisamment mûr dans la foi catholique pour pouvoir aborder cette lecture sans dommage. Pour vous montrer, ça a été jusque entre les deux guerres, même jusqu'au début du siècle, jusqu'au début des années d'après-guerre, j'avais une grand-tante, n'est-ce pas, catholique, et mon grand-père, c'est le grand témoignage, et elle ne voulait même pas toucher la Bible. Il avait une Bible, il prenait la Bible, il ne voulait même pas la toucher. Alors, un jour, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Alors, elle dit, j'ai demandé à mon curé si je pouvais lire la Bible, voyez-vous, elle avait appliqué exactement la règle du Concile de Trente, et le Concile avait répondu, non, parce que c'est un mauvais livre, et de toute façon, vous n'y comprendrez rien. Elle ne voulait même pas toucher la Bible. Même pas la toucher, c'était impur, n'est-ce pas ? Mais celui qui aura la présomption de les lire ou de les posséder en dehors d'une telle autorisation ne pourra obtenir la rémission de ses péchés sans avoir auparavant rendu la Bible à l'ordinaire. Voilà. Et là aussi, bon, il a fallu mettre un peu d'eau dans son vin, mais en principe, le catholique n'a le droit de lire la Bible jusqu'à aujourd'hui que si celle-ci a l'imprimature, ça veut dire si elle est annotée, d'abord si elle est traduite par les autorités compétentes, et si elle est annotée d'une telle manière que l'interprétation du texte sera obligatoirement l'interprétation catholique. N'est-ce pas ? Et les Bibles sans notes, comme celles que nous diffusons nous et auxquelles nous sommes très attachés, si ce n'est des notes explicatives, n'est-ce pas ? Eh bien, logiquement, sont interdites aux catholiques qui respectent. Hein, bon, le catholique de base respecte maintenant plus ou moins, il en prend à son aise, mais logiquement, d'après le droit canon catholique, c'est ainsi. Hein. Autres dogmes qui sont réaffirmés, les mérites, nous l'avons vu, la valeur des sacrements et la transsubstantiation. En fait, à partir de 30, l'Église catholique redevient une machine de guerre, dont la visée est la domination mondiale. Car derrière le Concile de Trente, il y a non seulement le problème de l'hérésie protestante, comme ils disent, n'est-ce pas ? Mais il y a aussi un autre phénomène sur lequel nous allons nous arrêter dans quelques temps, ce sont les grandes découvertes. Le XVIe siècle, le XVe siècle déjà, mais surtout le XVIe, c'est l'ère des grandes découvertes. La colonisation d'Amérique en particulier. Or, la colonisation, c'est aussi la mission. Il s'agit d'évangéliser ces Indiens, et on les évangélise très bien d'ailleurs, n'est-ce pas ? En les massacrant, ça, c'est radical comme ça. Ils se retrouvent tous au paradis, hein, tous. Ça, c'est formidable. Il va y avoir des millions d'Indiens qui vont comme ça être massacrés. Ad maiorem Deo gloriam, comme diront les jésuites, pour la plus grande gloire de Dieu. Ce qui fait que Jean-Paul II n'a pas pu aller célébrer cet événement l'an dernier, en 1992, parce que les descendants des massacrés n'ont pas manifesté un grand enthousiasme au souvenir de la manière dont ils ont été évangélisés. Ils sont en train de le montrer d'ailleurs en quittant l'Église catholique en masse. Là aussi, pour la plus grande n'est-ce pas, le grand désespoir de Jean-Paul II. Mais donc, Vatican III a aussi pour but cette évangélisation du Nouveau Monde. Car pour l'Église catholique, contrairement à Jésus, son royaume est de ce monde. Et Trent réaffirmait cette souveraineté de l'Église catholique sur le monde. L'Église est au-dessus des États. L'Église est au-dessus des rois. Et elle a une vocation à la domination et à l'empire universel. Voici par exemple une des professions de foi du Concile de Trente. Je reconnais fermement, dit le fidèle catholique, et j'embrasse les traditions apostoliques et les autres coutumes et règlements de l'Église. De même, je reconnais l'Écriture sainte dans le sens où notre Sainte Mère l'Église l'a tenue et la tient encore. À elle appartient le jugement sur le sens véritable et l'explication des Saintes Écritures. Jamais je ne l'interpréterai et ne l'expliquerai autrement que d'après l'interprétation unanime des Pères. Je confesse aussi qu'il y a au sens propre et véritable du terme sept sacrements de la Nouvelle Alliance qui ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui sont nécessaires pour le salut du genre humain, quoiqu'ils ne le soient pas tous pour chaque individu, à savoir le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordination et le mariage. Ils communiquent la grâce, et que parmi eux, le baptême, la confirmation et l'ordination ne peuvent être renouvelés sans privilège. Voilà. Bon, on passe ensuite à une meilleure éducation du clergé. Ça fait partie de la machine de guerre, n'est-ce pas ? Car souvent, le gros problème, c'est que les prêtres de base n'étaient pas en mesure de discuter avec les pasteurs. Alors, on va les armer pour qu'ils puissent polémiquer. Et dans ce but, on édite en 1590 une nouvelle édition de la Vulgate qui va prendre le nom de Sixtine, qui est jusqu'à aujourd'hui encore l'édition de la Vulgate la plus courante, n'est-ce pas ? On crée aussi une instance qui a pour but la destruction des hérétiques et de leurs écrits, outre l'Inquisition qui existe déjà, qui s'appelle l'Index. L'Index a pour mission de traquer les écrits hérétiques, de les désigner comme tels et de les faire saisir par les autorités civiles et brûler, au besoin les auteurs avec. Maintenant, on appelle les prêtres à être prêts à souffrir pour la foi, on les appelle aux martyrs et on confirme les indulgences, bien évidemment. Bon, que peut-on dire finalement du Concile de Trente ? Quel a été son résultat ? Manifestement, il a été un coup d'arrêt à l'expansion protestante. Ça, c'est indiscutable. En plaçant le problème sous le terme que nous avons dit là, d'un affrontement, automatiquement, il a obligé les catholiques à s'aligner. Comme souvent, c'est le cas, n'est-ce pas ? Quand l'Église catholique sent qu'elle est en train de se liquéfier, alors elle se raidit. C'est le mouvement auquel nous assistons actuellement, n'est-ce pas ? C'est une constante dans l'histoire de l'Église catholique, n'est-ce pas ? Par exemple, il y a eu Vatican II qui a ouvert. Alors il y a des contacts, une osmose qui se fait avec les protestants, avec le monde, etc. Et automatiquement, il y a une dilution, il y a une perte de substance. Et quand la hiérarchie catholique se rend compte qu'il y a cette dilution, il rédit, il réaffirme. Et comme le réflexe catholique, c'est un petit peu le réflexe du deuxième classe quand il entend l'adjudant aboyer « garde à vous », fixe, aussitôt, on rectifie la position. Eh bien, c'est ce qui se produit à Trente. Ceux qui étaient tentés de s'accommoder avec la, la, le protestantisme, il rectifie la position. Notamment les pouvoirs publics, les rois, les empereurs, etc. Et ça, c'est un coup d'arrêt à la réforme. Il n'y a absolument aucun doute. Maintenant, pour ce qui est de la réforme de l'Église catholique en elle-même, le résultat est beaucoup moins évident. L'immoralité des prêtres, des évêques et des papes changera peu, en fin de compte, n'est-ce pas ? Et sur ce plan-là, on peut dire que 30 est un échec. Mais à côté du Concile de Trente, l'Église catholique va forger de nouvelles armes pour combattre l'hérésie. Et l'une de ces armes, ça va être la Compagnie de Jésus, autrement dit les Jésuites. Les Jésuites sont fondés par un Espagnol, descendant de Marane d'ailleurs, Ignace de Loyola, 1491-1556, c'est tout un programme, il est né une année avant l'expulsion. Ignace de Loyola est un soldat. Et au cours d'un de ses combats, qui ne se soucie pas tellement de Dieu d'ailleurs, la première partie de son existence, au cours d'un combat, il est grièvement blessé, il reste tout un temps entre la vie et la mort. Et là, devant la mort, il se tourne vers Dieu. Il fait manifestement une expérience spirituelle. Et il promet au Seigneur que s'il guérit, il consacrera le reste de sa vie à le servir. Effectivement, il guérit. Et Ignace de Loyola est tenté pendant un temps, d'ailleurs, n'est-ce pas, un peu par la doctrine de Luther. Finalement, à cause de son environnement, etc., enfin, peut-être toute son histoire, je ne sais pas exactement. Il conclut qu'un des plus grands dangers pour la foi véritable, c'est le protestantisme. Et il décide de consacrer tout son effort à l'éradication de l'hérésie. Toute sa vie, toute sa mission, ce sera de combattre le protestantisme. Pour cela, il va créer un ordre religieux, demandant pour ça l'autorisation au pape de fonder un nouvel ordre religieux. Il fait les trois vœux monastiques classiques, chasteté, pauvreté, obéissance, mais un vœu supplémentaire qui est l'obéissance totale au pape. Et il demande de n'avoir pas d'autre autorité que celle du pape. La Compagnie de Jésus, comme il l'appelle, n'est-ce pas, est une légion, une armée. Ignace de Loyola est lui-même un soldat et il organise son ordre sur le modèle d'une armée avec un général. Il se nomme lui-même général, bien sûr, ou il se fait nommer général, reconnaître général par le pape. Et c'est une armée entièrement dévouée au service du pape, qui est là pour exécuter les moindres désirs du pape, périndé ac cadaver, selon la doctrine du mouvement, ça veut dire obéir comme un cadavre, sans réfléchir, sans penser par soi-même, n'est-ce pas ? L'obéissance à la hiérarchie, c'est-à-dire au pape d'abord, mais ensuite évidemment au supérieur hiérarchique, comme dans une armée, n'est-ce pas ? Eh bien, on obéit sans comprendre, sans chercher à comprendre. Et le deuxième slogan d'Ignace de Loyola, « Ad maiorem Deo gloriam », pour la plus grande gloire de Dieu, qui est une manière de reprendre à son compte la devise des réformateurs, « Soli Deo gloria », à Dieu seul la gloire. Et voyez-vous, Ignace de Loyola transforme « Ad maiorem Deo gloriam » pour la plus grande gloire de Dieu. Tout ce qui est fait pour la plus grande gloire de Dieu. Ça veut dire, c'est une manière absolument abominable de tourner en quelque sorte la vision des réformateurs, c'est-à-dire la fin justifie les moyens. Du moment que le but ultime est la gloire de Dieu, on peut employer tous les moyens. Et ces moyens, eh bien justement, nous allons voir que ils ne sont pas banals. Le premier élément, c'est le développement d'une mystique fanatique qui a beaucoup à voir avec le tempérament espagnol exacerbé sur ce plan-là. Peut-être, comme me disait un professeur juif, peut-être que justement il y a une certaine influence de la Kabbale, la mystique juive dans ce domaine-là, possible. Dans la mystique de Loyola ou bien de Thérèse d'Avila, qui était d'ailleurs aussi une descendante de Marane, parenthèse, ça. Et puis deuxièmement, une discipline militaire, avec des exercices spirituels, de la même manière qu'un soldat s'entraîne, se maintient en forme physique, n'est-ce pas ? De la même manière, il y a des exercices spirituels à faire pour se maintenir en forme spirituelle. Le militant, n'est-ce pas, le jésuite, doit s'astreindre à un certain nombre d'exercices spirituels, qui sont alors extrêmement élaborés, qui sont tout un ensemble de techniques de mystique. Hein. D'autre part, il y a à l'intérieur du système de la compagnie tout un système de délation, chacun est surveillé par un autre, jusqu'au plus haut niveau. Et les moindres, comment dirais-je, pensées des uns des autres sont ainsi constamment répercutées à l'échelon supérieur. Et l'échelon supérieur, c'est le général qu'on appelle aussi le pape noir, n'est-ce pas ? Jusqu'à ce jour, d'ailleurs. Or, la compagnie de Jésus a trois fonctions, trois buts. Premièrement, la mission en pays païen et hérétique, et essentiellement, les missionnaires dans le Nouveau Monde seront des jésuites, en Amérique du Sud en particulier. D'ailleurs, ce ne sera pas toujours négatif. Ils seront parfois plus humains que d'autres missionnaires. Mais enfin, ça c'est autre chose. Donc, en pays hérétique aussi, ils ont pour mission de pénétrer les pays hérétiques, et notamment de s'en prendre aux élites. Si on arrive à ramener les rois, les grands, dans la doctrine catholique, au bout d'un temps, on ramènera le petit peuple. Et pour ça, il s'agit donc de lutter pied à pied avec l'hérésie et en ayant une culture plus vaste, une dialectique plus savante. Et le militant jésuite va devoir donc acquérir une grande culture. D'où un accent très fort mis sur l'éducation. Or, l'éducation, c'est non seulement l'éducation du jésuite en lui-même, mais aussi l'éducation des élites, et notamment de la jeunesse. Si l'on peut former la jeunesse dans la vision catholique, alors on sera à l'abri de l'hérésie. Ignace de Loyola mise à fond sur la jeunesse, et il va donc s'efforcer de la toucher, elle. Il crée des écoles. Il envoie ses gens discuter, proposer de l'argent. Tous les moyens sont bons pour ramener même les pasteurs dans l'Église catholique. Et parfois, il y réussira. Et pour cela, on emploie un autre moyen, donc ad maiorem Deo gloriam. Même les moyens malhonnêtes sont acceptables, nous l'avons vu, si le but ultime est la gloire de Dieu. D'où la casuistique jésuite. Par exemple, il n'existe ni bien ni mal en soi. Le bien et le mal ne sont fonction que du but que l'on recherche. Par exemple, c'est mal de tuer, c'est mal de mentir, c'est mal de corrompre, mais si on fait cela pour amener un hérétique de sa mauvaise voie, si on le trompe, si on le corrompt, si on le soudoie, c'est bien. Tout est dans l'intention. Or, cette intention, le jésuite de base ne peut pas la discerner. Si le supérieur lui ordonne de tuer, il doit tuer sans hésitation. Si le supérieur lui ordonne de mentir, il doit mentir sans l'ombre d'une hésitation. Le supérieur sait ce qui est bien, lui ne sait pas ce qui est bien. Et comme rien n'est bon et mauvais en soi, s'il a un problème de conscience, c'est le supérieur qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Et il doit faire part de ses problèmes de conscience à son supérieur, et si le supérieur lui a donné carte blanche, il doit faire taire ses scrupules de conscience et aller de l'avant. On sait tout ce que Pascal, un homme comme Pascal, Blaise Pascal, pensera justement de la doctrine des jésuites, et il consacrera à ces gens-là un écrit féroce, n'est-ce pas, s'appelle « Les Provinciales », dans laquelle il dénonce ce qui est devenu depuis Pascal, justement, une expression proverbiale, le jésuitisme, qui dit bien ce qu'il veut dire. Ça veut dire cette manière de vivre dans l'ambiguïté, éventuellement de tromper, de mentir, n'est-ce pas, pour la plus grande gloire de Dieu. Du moment que c'est pour le bien, du moment que c'est pour la plus grande gloire de Dieu, peu importe. Hein. Alors, je terminerai juste, si vous voulez, en vous disant... justement, la profession de foi du jésuite qui prononce les vœux. J'approuve tous les rites approuvés par l'Église lors de l'administration solennelle des 10 sacrements. J'accepte entièrement tout ce qui a été décidé et déclaré au Concile de Trente sur le péché originel et sur la justification. Je confesse que dans les messes est consommé un sacrifice véritable et expiatoire pour les vivants et pour les morts, et dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, le corps et le sang, en même temps que l'âme de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, sont réellement et véritablement présents. Qu'il se produit une transformation de toute la substance du pain dans le corps et de toute la substance du vin dans le sang. Cette transformation, l'Église catholique la nomme transsubstantiation. Je confesse en outre que le Christ tout entier et le véritable sacrement sont présents même sous une seule espèce. Je tiens fermement qu'il existe un purgatoire et que les âmes qui sont renfermées trouvent un secours dans la prière des croyants. Je crois fermement que l'on doit vénérer et invoquer les saints qui règnent avec le Christ, qu'ils apportent pour nous des prières à Dieu, que l'on doit vénérer leurs reliques. J'affirme fermement que l'on doit avoir et conserver les images du Christ, de la Mère de Dieu toujours vierge, ainsi que des saints, qu'on doit leur témoigner le respect et la vénération qui leur sont dues. Je dis aussi que le Christ a donné à l'Église plein pouvoir pour les indulgences et que leur usage apporte une grande bénédiction au peuple chrétien. Je reconnais la Sainte Église romaine, catholique et apostolique comme la mère et l'éducatrice de toutes les Églises. Je promets et jure vraie obéissance au pape romain, successeur de Saint-Pierre, le prince des apôtres et le vicaire de Jésus-Christ. J'accepte aussi sans élever aucun doute et je confesse toutes les autres choses qui ont été transmises, décidées et déclarées par les saints conciles œcuméniques, avant tout par le Saint Concile de Trente. Et de même, je condamne, je rejette, j'anathémise tout ce qui est en contradiction avec cela, toutes les fausses doctrines que l'Église a condamnées, rejetées et anathémisées. Voyez-vous, périndé à cadaver, obéir comme un cadavre. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?